Patrick Vivray est philosophe. Il se définit lui-même comme un passeur-cueilleur. On le retrouve pour la première édition des Dialogues en Humanité à Bruxelles. C'était en juin 2018 sous les arbres du parc Josaphat.
Donc voilà, c'est l'entretien avec Patrick Vivray au Dialogue en Humanité.
Patrick, on est très content de te revoir. Donc ça fait plusieurs années qu'on se croise et voilà, il y a une chose qui pour nous est très singulière dans ta manière de fonctionner, dans ta pensée et dans ta manière de la formuler, mais c'est le rapport aux mots, justement. Dans la première journée des Dialogues en Humanité, on a eu l'occasion de t'écouter parler, de t'écouter débattre. Et il y a des manières de formuler les choses qui ont encore été surprenantes. Donc il y avait une agora où il y avait beaucoup la question du réchauffement climatique qui est venue en commun, sur le tapis, on pourrait dire. Et à cette question du réchauffement climatique, toi tu es venu avec l'expression de la glaciation relationnelle et émotionnelle. À un autre moment, sur la question des mouvements citoyens, de l'état de notre société, du monde, on a beaucoup été dans la question de l'effondrement, et climatique, économique, humaine. Toi, tu es revenu avec la question de la stratégie érotique mondiale, qui est comme une sorte de force de vie. Je notais aussi qu'à un moment donné, avec les personnes qui venaient d'Inde, on venait beaucoup sur la question du produit intérieur brut, même s'ils le formulent autrement. Et est-ce que c'était toi, il me semble, qu'il y a la question du bonheur intérieur brut qui est ressorti, donc le BIB plutôt que le PIB. Donc nous on se disait, comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que tu penses ce rapport aux mots, parce que tu parlais d'imaginaire, tu ouvres avec ce rapport aux mots un rapport surprenant à l'imaginaire qui nous, à chaque fois, nous fait du bien, nous surprend et ouvre nos esprits. Donc comment est-ce que tu travailles là-dessus? Est-ce que tu sais répondre à cette question?
Alors d'abord, moi je crois beaucoup que la langue c'est notre premier habitat émotionnel. Et c'est aussi évidemment la façon dont on communique avec les autres. Et que la question du dérèglement de la langue, quand la langue, au lieu de servir à l'ouverture aux autres, sert au contraire à la fermeture, à la rivalité, a fortiori à la guerre, qu'à ce moment-là, on est vraiment dans un dérèglement de la langue qui va avec la fermeture des cœurs et l'avidité, qui sont en réalité les trois éléments qui, rassemblés, mènent les sociétés humaines à la catastrophe. Mais on n'est pas non plus obligé d'attendre des effondrements ou des catastrophes pour y travailler sans attendre. Et à ce moment-là, réinvestir la langue, réinvestir l'histoire des mots pour se donner le droit de réouvrir l'imaginaire devient une clé. Et c'est pour ça que moi, j'ai souvent pris des mots, comme j'avais beaucoup travaillé dans mon rapport sur une autre approche de la richesse, au fur et à mesure que j'avançais dans cette mission, je travaillais au début sur d'autres chiffres, d'autres indicateurs, y compris bonheur intérieur brut comme au Bhoutan ou produit intérieur doux comme au Québec. Mais ça, c'était du côté des chiffres. Mais plus j'avançais dans cette mission et plus je me disais, mais il y a quelque chose de plus simple et en même temps de plus fondamental à faire, c'est se donner le droit de réinvestir les mots, et notamment les mots du vocabulaire économique, parce que c'est là que la novlangue, au sens d'Orwell, est la plus caricaturale. Un mot aussi fort que valeur, valeur en latin, c'est la force de vie. Donc parler de valeur ajoutée, ça serait partout où il y a une force de vie supplémentaire pour les humains ou pour la nature. Et la destruction de valeur, on devrait dire, bah oui, si on détruit un écosystème naturel, ça devrait être enregistré comme une destruction de valeur. Si la souffrance au travail est telle que des êtres humains en viennent à se suicider, ça devrait être enregistré comme une destruction de valeur. Donc quand ensuite on va parler de création de valeur et pire, de création de valeur pour les actionnaires, ça veut dire quoi? Réserver la force de vie pour les actionnaires, on marche sur la tête. Un mot comme bénéfice, à l'origine, ça ne veut pas dire solde monétaire positif, ça veut dire activité bénéfique, source de bienfaits. Donc une véritable comptabilité, c'est un acte politique où on élabore un discernement sur qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible, puis aussi qu'est-ce qui fait doute ou qu'est-ce qui fait débat, etc. Tu vois, on peut prendre comme ça des tas d'exemples et à ce moment-là, s'autoriser à réinvestir l'histoire de la langue nous réouvre aussi notre imaginaire.
Alors, par rapport à ça, j'ai l'impression que, alors peut-être je me trompe, hein, tu me corriges si je me trompe, qu'il y a une réaction par rapport à un terme déjà existant. Est-ce que c'est ton esprit qui engrange des termes existants, qui se baladent beaucoup, qui sont presque sur le point de s'user, et ton esprit se met en travail, en création, pour trouver un terme contraire, presque contraire, qui va amener une autre vision, une autre manière de se positionner. Comment ça se passe à l'intérieur de ton esprit par rapport à cette création de mots et de termes nouveaux?
Alors, il y a deux choses. Il y a le rôle de l'intuition, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je fais très confiance à l'intuition, parce que l'intuition, c'est aussi ce qui nous relie à l'univers, au cosmos, etc. C'est-à-dire quand on se réveille le matin ou même dans la nuit, etc. Et tout d'un coup, il y a des éléments qui nous apparaissent. C'est comme un cadeau. Et donc, s'autoriser ce passage par l'intuition, ça, c'est quelque chose que j'ai appris au cours du temps, mais que je trouve souvent fondamental. Et puis, d'autre part, c'est aussi, à côté de l'intuition, l'attention. J'utilise le mot « attention » avec un « a » comme alternative à l'attention avec un « t », hein, l'attention de la course, du stress, de la rivalité, et au contraire, l'attention de l'accueil. Quand on se met en position d'attention, très souvent, quand on a une idée, quand on a une intuition et qu'on se met à écouter autrui, on se rend compte que d'autres personnes, d'autres groupes ont des idées comparables ou très proches. Et par exemple, moi j'avais cette idée et puis un jour, en rencontrant Abdennour Bidar, parce qu'on s'est rencontrés ensemble sur les enjeux de la fraternité après les attentats de Paris, et j'ai trouvé pratiquement la même idée chez Abdennour. Et je lui ai dit, et du coup, on s'est mis à parler ensemble du fait qu'il y avait un double dérèglement climatique et qui entretenait d'ailleurs un lien systémique entre les deux, parce que, bien sûr, il y avait le dérèglement qui se traduisait en termes de moyenne par le réchauffement sur le plan écologique, mais que ce dérèglement-là, il était lié aussi à des situations de mal-être, de mal de vivre, de maltraitance, qui fait par exemple que plus les gens sont isolés et dépressifs, et ben plus ils vont par exemple consommer de l'énergie, ou ça va se traduire par de la boulimie sur le plan alimentaire. Et à ce moment-là, ce qui était de mon côté une intuition personnelle, au contact d'Abdennour, est devenu le début d'une co-construction collective que ensuite on pouvait, l'un et l'autre, sous des formes différentes, mais mettre en partage dans des espaces plus larges. Et là, par exemple, dans les dialogues en humanité qui vont se passer à Lyon, on a l'un des parcours qui s'appelle « Double dérèglement climatique » et on travaille sur ces deux volets.
Du coup, par rapport à ce que tu dis, par rapport à cet autre philosophe, il y a une manière de mettre en commun, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'expression, le terme en tant que philosophe que tu partages, il y a un rapport au droit d'auteur. On pourrait se dire, c'est moi qui l'ai inventé, touche pas à mon expression. Tandis que toi, tu as un plaisir à l'articuler avec la pensée d'un autre. Et donc un plaisir, je pense, à ce que ça se partage plus largement et que ça s'augmente et que ça s'enrichisse. Donc ça, c'est un peu particulier aussi, parce que dans le rapport à la création, à l'écriture et à la pensée, il y a parfois une façon de défendre sa nouvelle pensée, son nouveau concept, et de le garder fort pour soi.
Ben, c'est la même approche que celle du logiciel libre ou de l'open source, surtout quand on est en plus sur le terrain du langage. S'il y a bien un terrain où on ne doit pas être dans des logiques d'ego et de propriété, c'est celui-là. En plus, moi je crois qu'un des grands enjeux de l'humanité, à la fois à titre personnel, de transformation personnelle, mais aussi à titre de transformation sociale, c'est ce qu'on pourrait appeler la réduction de l'empreinte écologique, qui est un enjeu aussi important que l'empreinte écologique. Et quand on est dans l'ego, en fait, on est dans une forme de mal-être. Et l'ego, il pourrait se traduire par le cri « et moi, et moi, et moi », mais qu'on pourrait écrire aussi bien « et plus loin moi », mais aussi « aime-moi », évidemment, « et moi » et « moi » sur l'enjeu émotionnel, mais aussi, paradoxalement, « et moi », H-A-I-S, plus loin moi, parce que comme le montre par exemple l'analyse transactionnelle, la pire chose pour des êtres humains, c'est l'indifférence. Donc, quand ils n'arrivent pas à être reconnus par la voie de l'amour, ils préfèrent encore être reconnus par la voie de la haine, en tout cas de l'agressivité, pour exister aux yeux d'autrui. Et donc, le travail sur l'ego, c'est aussi un travail pour passer de ce petit moi empoisonné à ce que certaines traditions spirituelles appellent le soi, mais qui fait qu'à ce moment-là, au contraire, on se dit ben, « je suis infiniment petit, je suis lilliputien, mais j'ai cette chance extraordinaire de pouvoir, grâce à ma conscience, de me mettre au balcon de l'univers et de trouver que les autres, au lieu d'être des rivaux, l'ego, lui, il est en permanence dans la peur de la rivalité avec son « et moi », alors que le soi, ou ce « moi » élargi, il se dit ben, « moi, je vois un petit bout de lorgnette, mais grâce aux autres, je vais élargir ma focale. » C'est la même chose que dans le rapport au temps. Moi, j'utilise l'expression « vivre à la bonne heure ». Vivre à la bonne heure, c'est dire « je ne peux pas tout vivre, je ne peux pas tout faire. Et si je veux tout vivre, ben forcément, les autres sont des rivaux permanents. Je zappe et les autres sont des rivaux. » Tandis que si je dis « j'accepte de ne pas tout vivre, mais ce que je vis, je le vis intensément », à ce moment-là, c'est grâce aux autres que je vais avoir accès à des saveurs de vie que je ne connaîtrais pas directement.
Grâce à l'expérience des autres, à la pensée des autres.
L'expérience, la pensée, les voyages, les lectures, les films, les amours, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, le moi, au lieu d'être dans une logique de rivalité, que ce soit sur le langage ou toute autre forme de propriété, il considère les autres comme des compagnons de route en humanité. Et là, il y a un changement majeur de motivation. C'est-à-dire, dans le premier système de motivation, c'est un système qui fonctionne à l'excitation et qui est en permanence dans la dépression, en tout cas dans la frustration, et qui ne ressort de la dépression que par une excitation de niveau supérieur. Donc c'est l'excitation de l'argent, du pouvoir, mais ça peut être aussi tout aussi bien des supporters d'une équipe de foot, etc. Et cette forme-là, elle est du côté de ce que Spinoza appelle les passions tristes. Alors que face à ce type de comportement, on a l'autre ressort émotionnel dont parle Spinoza, qui est le ressort de la joie. Et la joie, ça nous place en situation de dilatation. Je vis une joie extrême à être sur cette terre, dans cet univers, à avoir la chance de rencontrer d'autres êtres humains. Et le degré d'intensité qu'on vit à travers cette joie est beaucoup plus important que celui qu'on vit avec l'excitation. Et là où l'excitation crée un déséquilibre, qui va créer du mal-être, dans la joie, je peux vivre au contraire de l'intensité et de la sérénité simultanément. Donc c'est un gain sur tous les tableaux.
Dernière question. Donc le premier numéro du Grain des Choses a pour thématique « On n'est pas seul ». Alors, on se demandait, on n'est pas seul, on n'a pas encore décidé de comment on allait le ponctuer. Est-ce qu'on dit « on n'est pas seul avec un point », « on n'est pas seul avec un point d'exclamation », « on n'est pas seul avec un point d'interrogation » ou, effectivement, la dernière possibilité, « on n'est pas seul, trois petits points ». Est-ce que tu peux réagir à cette question de la ponctuation de « on n'est pas seul » ?
Moi, ma réaction spontanée, ça serait de mettre à la fois un point d'exclamation suivi de trois petits points pour à la fois dire « oui, c'est très important de dire, de clamer comme une bonne nouvelle, on n'est pas seul », donc la fonction du point d'exclamation, et en même temps de montrer que ça crée un processus, un enchaînement, comme une graine que l'on sème, comme une chaîne que l'on commence, qui est exprimée par les points de suspension.
Parce que si on n'est pas seul avec un point d'exclamation, ça ne va pas nécessairement être simple non plus. Donc il y aura du boulot, c'est ça ?
Oui, mais c'est un chemin, et c'est un chemin de joie. Ça ne veut pas dire que c'est un chemin facile. Il y a bien des moments où c'est un chemin de crête. Mais chaque pas sur ce chemin nous élève en qualité d'humanité. Et donc le sentiment de vivre intensément à la bonne heure cette aventure humaine et de considérer les autres comme des compagnons de route en humanité, y compris dans des moments de difficultés, voire d'épreuves. Hein, c'est le fait que nous allons tous mourir, que tous nous sommes confrontés à des situations de difficultés dans la vie. Mais précisément, c'est encore plus nécessaire de pouvoir s'entraider, je dirais même s'entraîner, dans ces situations difficiles que dans des situations plus légères.